Si vous nous rejoignez à l'instant ou que vous nous écoutez en rediffusion, vous n'avez pas entendu le jeu du dictionnaire et vous n'avez donc pas entendu la voix de Noémie. C'est mon invitée du jour. Salut Noémie, comment
Bonjour,
ça va ?
Bonjour Justine. Je vais bien, du coup.
Tu es une camarade de radio, mais on te connaît sur d'autres ondes puisque tu opères plutôt du côté de Guéret d'habitude, c'est ça ?
Je suis juste avec vos copains qui sont une ville à côté, à peu près dans le Limousin.
À RPG donc, à
Radio
la radio de la grande ville.
La grande ville de la Creuse.
Tout à fait, bah, la plus grande ville de la Creuse.
C'est ça.
Et donc on t'a proposé de venir dans cette émission pour nous parler de la chronique que tu fais depuis combien de temps ?
Oula, alors j'ai un très mauvais rapport avec les dates en règle générale, mais je pense que ça fait presque un an qu'on travaille déjà là-dessus. Okay. En tout cas, démarrer tout le processus, ça a déjà fait presque un an, ouais.
Et parce que justement, c'est quand même tout un processus, on en parlera. Mmh. C'est donc une chronique qui s'appelle « Voix d'Ukraine ». Et est-ce que tu peux nous en parler en deux mots ?
Ouais. Voix d'Ukraine, c'est destiné à parler de différents artistes qui ont croisé mon chemin pendant que j'étais en Ukraine. Et donc, il y a surtout des musiciens, parce que je suis moi-même musicienne et que pour moi, c'est plus facile de rentrer par les portes de la musique. Mais il y a aussi des plasticiens, il y a des filles que j'ai interviewées, des copines qui ont des métiers en rapport avec les évacuations sur le front, comment elles travaillent avec les enfants qui sont sur les lignes de front. Voilà, des DJ de Mariupol. Il y a plein de choses différentes dans cette émission. Et enfin, je pourrais vraiment en dire beaucoup, mais oui, principalement, c'est des gens que je rencontre sur ma route. Et pour qui je trouve qu'il y a quelque chose de très intéressant à vous partager en règle générale.
Ok. Et du coup, ça devient d'où ce lien avec l'Ukraine ? Tu étais déjà allée avant la chronique ?
Ouais, ça fait plus de 10 ans maintenant que je voyage en Ukraine. Et c'était un peu logique, en fait, de faire ça, parce qu'un jour, Thibaut, du coup, à RPG, m'a dit « Ah, mais ça t'intéresse pas de prendre un micro de RPG et d'aller interviewer un petit peu ce que tu fais en Ukraine ?» Et moi, je crois que c'est apparu un peu comme un rêve, parce que récolter la voix de ceux que j'avais déjà rencontrés et qui faisaient partie de mon monde musical quand j'allais là-bas, c'était logique de faire ça, et de pouvoir le rapporter en temps de guerre, c'était encore plus incroyable.
Et ton rapport à la radio, du coup, à ce moment-là, t'en avais déjà fait ou c'était tout nouveau ?
Pas du tout. J'en avais pas fait... si, j'en avais fait une fois, mais il y a longtemps. Mais je pense que ça m'avait déjà donné un peu le goût et... Mais quand on apprend la musique, on a un peu ce rapport déjà à l'écoute. Et je pense que ça aide beaucoup pour faire de la radio.
Et du coup, si je comprends bien, tu avais déjà tout un réseau de connaissances en Ukraine que tu avais fait au fil des années. Mm-hmm. Tu récupères donc à RPG cet enregistreur que te donne Thibaut. Et du coup, tu repars, c'est ça, en Ukraine, pour enregistrer des gens ?
Ouais, ouais. Enfin, avec ou sans RPG, je repars de toute façon.
Ok.
Mais là, c'était l'occasion, évidemment, de dire, en plus de partir, je reviens avec quelque chose qui se partage. Et je ne savais pas du tout quelle forme ça prendrait. Et un peu comme tous les gens qui débutent la radio, j'ai fait plein de rushs. J'ai fait n'importe quoi. Et je me suis dit, mon Dieu, comment je vais faire ? J'ai plein de trucs au bout du premier voyage. Et en fait, ça m'a trop plu de faire ça, d'aller récolter les voix d'Ukraine, de la musique. C'était incroyable.
Du coup, là, c'est le 22e épisode, t'en es au 22e qui est sorti, je crois.
Ouais, le 23e sort dimanche.
Et est-ce que ces 23 épisodes-là, ils viennent d'un seul voyage ? T'es retourné plusieurs fois ? Comment ça marche ?
Ils viennent de deux voyages. J'ai fait 30 interviews en deux voyages. Ce qui était quand même assez sportif et on s'en rend pas compte. Mais je suis partie un peu en me disant, il faut que je récolte du matériel et ça va me donner du travail sur plusieurs temps. Mais je pensais pas autant de temps. Mm-hmm. Mais au moins, j'ai de quoi, tous les dimanches, de donner matière à ce qui se passe en Ukraine. Et je sais plus quelle était la question.
La question, c'était le nombre de... Si tu avais fait ça en un seul voyage,
oui,
en deux.
En deux voyages. Et qui sait, peut-être les prochains aussi, mais peut-être que je ferai une petite pause à un moment donné parce que c'est beaucoup de travail quand même.
Bah ouais, parce que du coup, après, c'est toi qui fais le montage ?
RPG, du coup, Anne-Laure m'a formée au montage. Ça a été incroyable aussi de pouvoir être formée là-dessus cette année. Merci le chômage
de m'avoir merci donné Anne-Laure, du coup, aussi.
Oui, et un énorme merci à Anne-Laure, évidemment. Et à RPG qui m'a proposé cette formation. Et voilà. Et du coup, maintenant, je fais le montage, mais Anne-Laure m'a accompagnée dans toute cette possibilité d'être plus autonome. Et je suis tellement contente aujourd'hui de me dire, bah, je peux réaliser des émissions par moi-même. C'est fou.
Alors là, on va écouter le premier épisode bientôt, mais ils ont quand même un peu évolué. Bah, déjà, en termes de durée, on est passé d'épisodes plutôt autour de 10 minutes à des épisodes carrément qui font jusqu'à 30 minutes. Ça, c'est ton... Quelle évolution t'as eu un peu au fur et à mesure des épisodes ? Je suppose que déjà, tu t'es perfectionnée en montage.
Oui, et en fait, sans le vouloir, j'ai fait des interviews tout de suite en ukrainien. Mm-hmm. Et c'était très dur de trouver la ressource en France pour pouvoir traduire. En tout cas, dans la Creuse, c'était dur de trouver la ressource pour traduire de l'ukrainien au français. Et ça demandait double traduction, du coup, pour moi. Parce que là, du coup, je peux faire moi-même la traduction. Mmh. Mais du coup, ça demandait de trouver un traducteur, de traduire des fois aussi parce que le traducteur français ne comprend pas forcément les noms de groupes de musique que j'interview ou le langage. Qui est dit de ce monde-là. Et du coup, il fallait que je passe de l'ukrainien à l'anglais, de l'anglais au français. Et c'était l'enfer. C'est pour ça que ça m'a pris autant de temps au début. Et du coup, j'ai fini par juste dire « Ok, je fais que des interviews en anglais. »
Okay.
Et c'était plus facile après.
Ok. Et tu dirais que, à part du coup, ça, c'est ta technique d'interview qui a changé. Il y a d'autres trucs qui ont évolué dans ton format ?
Le temps de discuter, ouais, comme tu disais, avec les Ukrainiens, ça a changé. Peut-être parce que quand tu parles dans une langue, enfin tout de suite l'anglais, c'était plus simple parce que je pouvais parler plus et ceux qui me répondaient en anglais pouvaient vraiment être dans le fluide de la conversation. Donc ouais, l'anglais, ça a changé le format d'être en anglais. Après, en Ukraine, ça a beaucoup changé.
Ok, très bien. On va écouter donc ce premier épisode. Chaque épisode est centré autour d'une personne et cette première personne, c'est Lesia.
C'est ça, c'est ma plus vieille amie ukrainienne. C'est la première fille que j'ai rencontrée en Ukraine en étant volontaire.
D'accord, okay, bah on reviendra peut-être là-dessus sur votre rencontre. Je ne sais plus si tu la détailles dans le premier épisode.
Je crois que je la détaille un peu, ouais.
Ok, et ben, on l'écoute tout de suite.
Ой, ти, Петре, Іване, Іване.
Voix d'Ukraine, voix d'artiste, réalisée en temps de guerre par Noémie Philippe Duméstier.
Я вже твоя, Петривочка,
sur RPG.
J'ai commencé mes interviews à Paris le 24 février 2025, le jour de la troisième année de l'invasion russe en Ukraine. Avec Lesia, ma plus vieille amie ukrainienne, nous étions devant la tour Eiffel, illuminée aux couleurs du drapeau ukrainien. Ce jour-là, j'entamais mon 12e périple vers l'Ukraine, où depuis 2015, tout trajet réuni, j'ai pu passer presque 4 ans dans ce pays. Je me suis particulièrement investie dans sa scène musicale. En ce moment, ce n'est pas possible de rencontrer un certain nombre d'Ukrainiens, un certain nombre d'hommes et d'artistes, notamment. Ils n'ont pas l'opportunité de quitter le territoire, et jour après jour, contraints ou volontaires, la plupart rejoignent l'armée. Aller à eux, c'était la meilleure solution pour leur donner la parole. Voici donc le premier témoignage de Lesia, qui est arrivée au début de la guerre à Paris. Elle a 31 ans.
Bon, pour l'instant, je travaille avec les guides, avec les groupes touristiques. Je les aide, je les traduis, et voilà. Sans être dramatique, je peux dire que c'était vraiment la décision la plus difficile de ma vie. En tout début, la chose qui m'a fait partir, c'est les sirènes et les nouvelles par rapport au Tchernobyl. J'étais trop stressée et j'ai pensé que... Ouais, j'ai pensé que tout est fini, il faut que je sauve ma vie. C'était très 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 stressant pour moi. Je suis partie juste parce que je voulais sauver moi-même.
Tu trouves un petit peu de paix à Paris ?
Oui. Ici, ouais, il n'y a pas de pression, il n'y a pas de sirène, il n'y a pas de guerre, quoi. Je ne peux pas dire même qu'il est apaisant parce que il y a 3 ans, j'ai quitté toute ma vie à Venezia et même ici, je me sens beaucoup plus calme qu'à cette époque-là. Les choses qui m'aident, c'est tout simple en fait. C'est tout ce que j'ai appris quand j'ai eu mon psychologie depuis 5 ans. Du coup, j'ai appris juste de me calmer. C'est les choses simples en fait. C'est juste de... Tout ce qui est l'art, ça m'aide énormément. Et les poèmes. Et je me souviens quand la guerre elle a commencé, je ne pouvais pas écouter la musique, je ne pouvais pas dessiner. Et tout ce qui est l'art, ça, pour moi, c'était un petit peu... C'était pas le moment, en fait. Et après quelques semaines, je me souviens quand j'ai lu sur Facebook un poème de Serhii Jadan. Mm-hmm. Et c'était un moment quand ça m'a un petit peu changé, en fait. C'est comme pendant toute cette semaine, juste après la guerre, je ne pouvais pas respirer. Et là, j'ai lu cet morceau de l'art qui m'a vraiment... un petit peu permet de souffler en fait, de regarder l'art, de poèmes et tout ça. L'écrire, ça m'aide énormément. Tout ce qui est mauvais, tout ce qui est dégueulasse, les sentiments, j'aime l'écrire. J'aime bien aussi faire les collages. Voilà.
Mais je sais que tu étais journaliste avant à Venezia. Et qu'est-ce que tu faisais exactement en tant que journaliste ?
Oui, j'étais journaliste et, pendant 3 ans et j'ai décidé de faire ce travail parce que c'était mon rêve en fait, de travailler exactement où j'ai travaillé. Mm-hmm. C'était une site internet, média en ligne Vaja. Et en fait, ça c'était un travail où on a écrit par rapport à tout ce qui se passe dans la ville. Et ça c'était un grand grand plaisir de faire ça parce que moi, j'aimais ma ville, j'aime bien ma ville. Et c'était trop cool d'écrire par rapport aux gens, par rapport à tout ce qui m'intéresse et ce qui est lié avec ma ville. Et en fait, j'adorais en fait. Et j'ai écrit par rapport à la culture, les concerts, les gens intéressants, les questions féministes que j'ai commencé à penser quand j'étais en France. Mm-hmm. Et voilà.
Pourquoi, en tant que journaliste ou en tant que personne, c'est important de raconter les choses qui se vivent aujourd'hui?
Parce que ça, quand on attend l'histoire qui nous ressemble, on se sent un petit peu plus en sécurité. Et c'est ce qui m'aidait aussi au début quand j'ai lu des histoires que les gens ont rencontrées par rapport à ces peurs, par rapport les trucs que tu ne peux pas normalement dire, par rapport à qui était à Ukraine, à quelque chose comme ça. Mais quand j'ai entendu les histoires... qui étaient dites par les gens et que quand les gens parlent, c'est bien.
C'est important.
Oui.
Comment on s'interroge au mieux sur ce qui se passe de l'invasion russe en Ukraine aujourd'hui ? Comment on fait pour bien connaître ce qu'il se passe ?
Par rapport aux choses pratiques, je pense que c'est commencer de vérifier qu'est-ce que vous... lycée, quel type de médias vous regardez. Mm-hmm. Ça, c'est le plus important, il ne faut pas lire des gens bizarres sur Twitter ou quelque chose comme ça. C'est le plus important. Et j'aimerais bien le dire aussi qu'il faut nous faire croire, il faut comprendre que tout ce qui se passe là-bas, c'est très important pour nous, bien sûr, mais c'est aussi très important pour l'Europe, pour France aussi. Après la guerre, en fait, j'ai mis ma vie, j'ai mis en pause ma vie. Et je pense que ça, c'est pour beaucoup de gens, c'est comme ça. Parce qu'on tous vit les trucs très traumatiques, très, très, très traumatiques. Et je peux dire que juste maintenant, j'essaye d'envisager, de planifier quelque chose petit à petit. Parce que c'est juste pas possible de vivre sans vivre, en fait. Jusqu'à maintenant, je ne sais pas où je vais rester, ici ou là. Et ça, c'est le pire de pire, en fait, de faire ça. Parce que j'aimerais bien, je veux décider. Mais là, j'essaye de comprendre qu'est-ce que je veux faire et pas où je veux faire. Par exemple, oui, pour donner l'exemple, maintenant je veux faire un article par rapport aux livres ukrainiens dans les librairies et médiathèques en France.
Je veux dire la manière dont sont disposés les livres sur la culture de l'Est en général.
Oui, c'est ça, parce que là, bizarrement, il y a un grand problème avec le placement de livres dans les librairies et médiathèques, ce qui est waouh, ce qui me choque beaucoup. Et oui, c'est une question très émotionnelle pour moi. Que maintenant, je vois beaucoup livres ukrainiens qui sont ou déplacés dans le département qui est nommé comme russe, ce qui est waouh, ce qui est bizarre, ou les écrivains ou écrivaines ukrainiens qui sont placés dans le département russe. Bon, c'est trop bizarre. Je peux imaginer pourquoi ça se passait comme ça, mais c'est quelque chose qui, peut-être, j'aimerais bien changer. Je veux crier. Je ne veux pas crier, mais je veux crier, je veux pleurer. J'ai beaucoup de sentiments mauvais, lourds. Et je pense que jusqu'à maintenant, je ne comprends pas qu'est-ce qui se passe. Et je sais que c'est ma problème. Ma personnalité, elle est comme ça, en fait. Il y a certaines gens qui font quelque chose. Et moi, je veux que juste que ça arrête, en fait, que la vie peut continuer pour tout le monde et que les gens ne meurent pas. Et je m'en sens compliqué. c'est compliqué, c'est très compliqué. Je veux que ça, tout ce que je veux dire, que je veux que ça arrête.
Je suis tellement touchée par la confiance que m'accordent les Ukrainiens que je choisis d'interviewer sur ma route. Ils me livrent des témoignages inédits. Et pour cette première à Paris, je remercie sincèrement Lesia. D'autres vont suivre, la guerre n'est pas terminée. Retrouvez les chroniques Voix d'Ukraine de Noémie Philippe Dumestier sur radiopaysdeguéret.fr. Montage Radio Pays de Guéret, traduction Tatiana Zeldakova. Пшенишенько з
коколю. Alors, ça fait quoi de réécouter ce tout premier épisode?
Ça fait très bizarre, j'ai l'impression d'avoir pris de l'âge. Non, je rigole, mais c'est vrai que ça, c'est déjà vieux, en fait. Ouais. C'était il y a un an, vraiment tout pile, parce que du coup, même un peu plus, parce que c'était la quatrième année de guerre.
Et du coup, toi, quand tu lances ce projet-là, donc la guerre a déjà commencé, est-ce que tu trouves que ça a évolué depuis dans toi, ta capacité à aller interviewer des personnes, à aller récolter ces voix-là?
Tu veux dire la guerre?
Oui, en tout cas, la vie sur place, quoi. Je suppose que oui, mais j'en sais peu de choses, en fait.
Je sais pas si... Si la guerre en elle-même, elle change le fait de pouvoir faire des interviews ou pas, mais on est, on rencontre de plus en plus de monde forcément sur place quand on y va. Donc ouais, obligatoirement, il y a un réseau qui se fait. Et peut-être que la guerre permet à un moment donné de... Plus c'est difficile de venir sur un territoire parce qu'il est en guerre, et plus c'est rare de retrouver des gens qui viennent de l'extérieur du pays. Donc peut-être que la guerre permet de se faire un réseau plus rapide sur place en se disant je suis une des seules étrangères que je rencontre, qui rencontre à un moment donné, un instant. Et peut-être que c'est plus facile ce réseau-là, mais je ne sais pas. Il y a d'autres étrangers, mais peut-être qu'ils ne vont pas dans les mêmes lieux que moi parce que je ne les croise pas quand je vais en Ukraine. Donc, ouais.
Et donc, toi, tu disais que les premières interviews, tu les avais faites en ukrainien. Donc, tu parles la langue, tu l'as apprise au fur et à mesure de tes visites. Comment est-ce que tu as mis les pieds pour la première fois en Ukraine?
C'était il y a longtemps. C'était en 2015.
C'était il y a 11 ans.
Ouais, et je suis venue la première fois avec ma tante qui avait une association humanitaire dans un petit village qui s'appelle Voroshilivka, dans le centre de l'Ukraine. Et en fait, elle faisait des missions humanitaires, donc elle est repartie. Et en France, elle faisait des allers-retours. Et maintenant, elle continue d'ailleurs de s'engager en envoyant du matériel médical sur le front et ce genre de choses. Mais je sais que moi, je suis restée en Ukraine et que je suis retournée après pour faire un Erasmus parce que j'ai eu un gros coup de cœur pour ce pays. Et du coup, je suis revenue par moi-même plusieurs fois et j'ai même vécu là-bas pendant 2 ans après.
Ok. T'as vécu là-bas en faisant des études, en travaillant
Un Erasmus et puis après, j'ai prolongé mon visa.
Ok. Et parce que du coup, tu disais que tu y retournais régulièrement. Comment est-ce que tu arrives à y retourner?
Je prends le bus pendant 3 jours. Et j'y vais complètement à mes frais parce que s'il fallait que je sois payée par une... Enfin, s'il fallait que j'attende d'être payée, il faudrait que je parte avec une association. Et dans ce cas-là, je ne pourrais pas faire les choses que j'ai envie de mener là-bas. Mais du coup, je pars complètement en autonomie et j'ai pas non plus d'assurance quand je pars. Enfin, c'est un choix que j'ai fait de partir de cette manière-là pour rester totalement indépendante de ce que je veux produire en allant en Ukraine aussi.
Et quand tu pars combien de temps?
Je pars entre 2 semaines et 2 mois en temps de guerre. J'ai pas dépassé les 2 mois en temps de guerre.
Mais bon, du coup, pour produire 30 interviews sur ces temps-là, c'est aussi une belle performance.
Ça a été très productif. Et j'ai vraiment adoré faire ça. Parce qu'il y a tout un planning que j'avais mis en place. Et j'avais mon sac à dos. En fait, j'avais l'impression d'être vraiment reporter pour RPG pendant 1 mois, quand j'ai fait le premier mois d'interview. Et j'avais vraiment mon sac à dos avec... Derrière moi, les badges, mes amis qui combattent sur le front me donnent des badges de leurs unités, dans lesquelles ils sont soldats. Et moi, je colle les badges de leurs unités sur mon sac. Et du coup, quand je pars le matin avec mon sac à dos, j'ai l'impression que je sais pour qui je le fais. Et ça me donne de la force de me dire, il faut que je parle de ces gens-là parce qu'ils se battent. Et qu'ils se battent aussi pour nous, je pense. On ne le dit pas, mais je pense qu'ils se battent pour nous, pour que notre démocratie, elle existe toujours. Du coup, je les porte sur moi et je sens que ce travail est important pour moi. Et récolter toutes ces interviews, ça a fait tellement sens dans ma vie.
Et est-ce qu'il y a des gens que tu as décidé de ne pas enregistrer ou est-ce que...
Il y a des interviews que j'ai annulées au dernier moment.
Ouais.
Que je pense qu'ils... C'était pas en me disant en fait quand je les ai travaillés, je me suis dit il faudrait que les gens aient le contexte, et je pense que sans connaître l'Ukraine, ils auraient peut-être associé certaines choses ça aurait faussé en fait la vision de ce qu'on peut connaître de la guerre en ce moment. Et il y aurait peut-être eu même des réflexions qu'ils n'auraient pas compris de ce qui se passe sur le front ou de pourquoi aussi des fois il y a la haine qui arrive quand on est bombardé depuis 4 ans. Et je pense que moi, je peux comprendre cette haine parce qu'en effet, ça fait 4 ans de guerre, 4 ans que j'y vais et que quand on connaît des explosions à Kiev et qu'on ne dort pas de la nuit, on a un début de haine envers un continent qui naît en nous. Mais je pense que pour un peuple français, ça serait pas compréhensible forcément d'entendre une telle violence, peut-être, ou une telle haine. Et du coup, il y a certaines interviews que j'ai pas menées. Et aussi une interview de quelqu'un qui faisait des analyses quand les soldats meurent sur le front. Après, ils ne sont pas forcément reconnaissables.
Okay.
Et il faut détecter leur groupe sanguin. Enfin, il faut toute une analyse des corps. Et là, il y avait pareil trop de données et j'ai eu un peu peur de sortir cette interview.
Ok. Mais tu l'as faite du coup ou tu l'as...
Je l'ai faite, mais je ne l'ai jamais sortie.
Ok.
Je l'ai changée au dernier moment. Ouais, j'ai des trucs un peu rares, je pense, mais j'en discuterai avec les gens... quand ils sont à côté de moi et pas sur des réseaux.
Très bien. Et du coup, dans les interviews que tu as faites, est-ce que tu peux nous résumer un peu quel genre de profil tu as recueillis ?
Il y avait plein de profils différents.
Ouais, c'est difficile de résumer 30 personnes.
Et surtout parce que je vais de différentes villes. Enfin, c'est vraiment des villes très différentes dans lesquelles je vais, plus ou moins proches de la ligne du front dans l'Est. Et du coup, il y a des ambiances différentes à chaque fois dans chaque café, dans chaque endroit dans lequel je passe. Mais ce qui m'a vraiment passionnée, c'est surtout le milieu de la musique et d'aller vraiment... par exemple, à la dernière interview que j'ai sortie, c'était un bar à Odessa qui est vraiment qui est assez underground. Mm-hmm. Et ça a été une épopée d'arriver jusque-là. Enfin, l'ami avec lequel j'étais s'est fait arrêter plusieurs fois par l'armée ukrainienne pour avoir son passeport, parce que s'il était ukrainien, il aurait été en âge d'aller combattre. Enfin, ça a été vraiment un parcours du combattant d'arriver jusqu'à ce bar. Et en fait, ce qui me passionne le plus, c'est d'aller chercher les groupes de musique les moins connus de l'Ukraine, mais qui ont une vraie histoire. Et je repense en fait juste à cette phrase de l'interview de Raga Pop que j'ai fait, où le gars me dit à un moment donné, c'est beaucoup plus intéressant d'avoir un gars atypique qui fait de la musique, qui a traversé tout le Donbass pour pouvoir faire de la musique aujourd'hui, plutôt que d'un mec qui va aller voir un musée à Paris. Et je suis tellement d'accord avec cette phrase. Enfin, le vécu, il est ouf et ça me passionne d'aller jusque-là. Ouais.
Mais justement, ouais, c'était une question que je me posais en t'entendant raconter ça. C'est est-ce que, parce que pour un artiste, une personne, l'idée de raconter son histoire, l'intérêt, je le vois assez spontanément. Mais est-ce que spécifiquement, le fait de s'adresser à une radio locale française, ça a du sens pour les personnes que tu interviews ?
Ça me permet peut-être, moi, de légitimiser mon travail plus qu'autre chose, parce que les gens avec qui je travaille me connaissent depuis assez longtemps, et du coup, peut-être que d'amener enfin matière à ce que je traverse en Ukraine, ça fait du bien. Mais utiliser le local pour parler de ce qui se passe en Ukraine, c'est peut-être aussi intéressant, parce que, par exemple, moi, je ne voudrais pas que mes émissions soient produites avec une autre radio au final, parce que pour moi, le RPG, ils ont les mots que je leur ai transmis aussi de ce qui se passe en Ukraine. Et au fur et à mesure, ils ont écouté mes interviews. Et maintenant, je ne voudrais absolument pas que quelqu'un d'autre s'imprègne de ces interviews pour les diffuser vraiment plus largement, parce qu'ils ont pour moi les mots justes pour parler de ce qui se passe.
Et les interviews, elles ont une existence en VO ou tu les montes que en français ?
Je les montre que en français.
Ok.
Mais si quelqu'un les veut en VO, elles sont dans mon ordinateur.
Non, mais je sais pas si tu aurais eu envie de les proposer à un média ukrainien ou...
Ça aurait pu. Ça me fait juste double travail et du coup, je ne l'ai pas encore fait.
Oui, je comprends.
Je t'avoue que c'est juste pour ça que je ne le fais pas. C'est déjà tellement de boulot.
Et du coup, là, on commence tout juste cette diffusion. C'était le premier épisode aujourd'hui. Mais toi, du coup, on le disait, il y a le 23e qui sort ce dimanche. Donc, pour t'écouter... en temps et en heure, et pas avec le retard lié au décalage horaire entre Guéret et Vassivière. À quelle heure on t'écoute sur RPG ?
Sur RPG, c'est à 19h. Ouais, c'est ça.
Et tu sors un épisode par semaine ?
Je sors un épisode par semaine, sauf quand vraiment j'ai besoin de faire une pause ou que Anne-Laure ou Thibaut ont besoin de faire une pause ou on n'arrive pas à coordonner quelque chose, parce que des fois, ça peut arriver que... Oui. Qu'on puisse pas sortir quelque chose. C'est beaucoup de travail toutes les semaines.
Et est-ce que tu as une invitation particulière à faire à nos auditeurs et nos auditrices, que ce soit une invitation d'écoute, une invitation d'action, de ce que tu veux ?
Si je pouvais me le permettre, je dirais simplement qu'à chaque fois que je fais ces interviews, je demande à nos amis ukrainiens de nous transmettre un message, celui qu'ils veulent. Et du coup, il y a 10 000 manières, ils ont trouvé 10 000 manières de nous en laisser. Il y a des messages plus ou moins difficiles, il y a des messages où on sent qu'il y a de la colère, même envers nous, même envers des gens qui ne les écoutent pas assez, ou des gens où ils n'ont pas du tout de colère, ou c'est des messages d'amour, des messages de paix, ou des gens qui vraiment nous disent « mais vivez la vie vraiment très fort parce que vous ne connaissez pas la guerre ». Et il y a plein de messages différents, mais ils sont tous intéressants et ils sont tous très sincères. Et je pense que les Ukrainiens ont vraiment quelque chose à nous apporter dans notre possibilité de nous voir à quel point notre vie, elle est belle ici.
Ben merci beaucoup, Noémie, d'être venue sur les ondes de Radio Vassivière nous raconter tout ça.
Et merci. Merci beaucoup, Justine.
Et à bientôt. Rendez-vous donc tous les mercredis pour entendre toutes ces autres voix d'Ukraine.